Bonsoir. La dette publique de la RDC a dépassé le cap des 10 milliards de dollars américains en 5 ans. C'est ce que révèlent des sources à la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. Les mêmes sources renseignent qu'en 2020, elle a été réduite de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à ce montant jusqu'en 2019. Entre 2019 et 2024, cette dette a connu une augmentation de 7 milliards de dollars. D'après les prévisions de la DGDP, d'ici les 5 prochaines années, la dette publique de la RDC risque de dépasser les 15 milliards de dollars américains. Des sources de la Direction générale de la dette publique révèlent que cette importante hausse de la dette est due aux dépenses de l'administration publique centrale, supérieure aux recettes publiques observées depuis 2019. En d'autres termes, les dépenses augmentent pendant que les recettes baissent. Comment analyser cette situation? Nous en parlons ce soir avec Lems Kamwanya, qui est analyste économique. Lems Kamwanya, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Florimond Mouteba, professeur et président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle. Professeur Florimond Mouteba, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Et Eric Tchikouma, député national et spécialiste des questions économiques. Eric Tchikouma, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir aux auditeurs de Radio Kati.
À Bounia, dans la province de l'Équateur, vous nous suivez sur la 104.9. Et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiootiapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission en live sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, la dette publique de la RDC a dépassé le cap de 10 milliards de dollars en 5 ans, information confirmée par nos sources à la Direction générale de la dette publique. Alors que cette dette publique était réduite en 2018, en 2010, je voulais dire, de 14 à 3 milliards de dollars et maintenue à 3 milliards jusqu'en 2019. Et voici que la dette publique a connu une augmentation de 7 milliards de dollars entre 2019 et 2024. De ces faits, d'après les prévisions de la DGDP, d'ici les 5 prochaines années, la dette publique de la RDC risque de dépasser les 15 milliards de dollars américains. Michel Kifinda.
La dette publique a commencé à galoper à partir de 2019. Elle est passée de 3 à 10 milliards de dollars entre 2019 et 2024, affirment nos sources à la Direction générale de la dette publique. D'après les bulletins statistiques de la dette publique parus en mars 2023, le stock de la dette arrêté au 31 décembre 2022 est évalué à plus de 9 milliards de dollars, soit respectivement 41% des dettes intérieures et 59% des dettes extérieures. Cette importante hausse de la dette est due aux dépenses de l'administration publique centrale supérieures aux recettes publiques observées depuis 2019. La dette extérieure est contractée directement par l'administration centrale auprès notamment de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Banque africaine de développement, estimée à près de 6 milliards de dollars. Cet argent a couvert, entre autres, les dépenses liées au financement de la gratuité de l'enseignement primaire. La dette publique intérieure, quant à elle, s'élève à plus de 4 milliards de dollars. Une partie a servi aux dépenses publiques entraînées par les bons des trésors émis par les trésors publics à la Banque centrale. Le reste n'est constitué uniquement que des arriérés budgétaires de plus d'un an de l'administration centrale.
Merci Michel Kifinda pour tous ces détails. Lems Kamwanya, je rappelle que vous êtes analyste économique. Cette émission est aussi pédagogique. On va essayer d'utiliser des termes pas très compliqués, des termes simples pour permettre à nos auditeurs de bien comprendre la question. Ce sujet est quand même assez technique, il faut le reconnaître. Avant de commencer, Lems Kamwanya, qu'est-ce qu'on entend par dette publique?
Oui, merci Kelly pour cette question. De la manière la plus simple, la dette publique, c'est ce que l'État doit comme argent à payer au privé. aux sociétés, donc aux projets qui peuvent être des sociétés, des entrepreneurs, à certains partenaires extérieurs ou à ce qu'on appelle communément les partenaires multilatéraux comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou les Fonds monétaires internationaux, parce que l'État, nous les considérons comme un agent économique, comme un agent économique, donc qui a des dépenses à engager et qui reçoit aussi des recettes. Alors, lorsque l'État constate que les dépenses qu'il doit engager dépassent largement le niveau de ses recettes, l'État est obligé de chercher des financements, de s'endetter, d'emprunter auprès soit des sociétés privées, soit d'autres banques, comme on vient de les citer, pour arriver à couvrir ces différentes dépenses. Ces emprunts-là qui sont contractés ou ces montants non payés de ces factures vis-à-vis des privés qui ont assuré certains travaux ou cet argent qui a été emprunté vis-à-vis de tous ces partenaires financiers qu'on a évoqués, qui constituent ce qu'on peut communément appeler la dette publique. Donc je dirais globalement qu'il est constitué de deux parties. Une partie, ce sont tous ces financements extérieurs pour les prêts projets qui viennent des partenaires comme la Banque mondiale et FMI. Et aussi, l'État peut s'endetter sur le marché local ou même ne pas payer les factures de certaines prestations ou bien d'achat des biens et services qui lui ont été livrés.
Alors, la dette publique de la RDC a dépassé le cap des 10 milliards de dollars américains en 5 ans, soit de 2019 à 2024, alors qu'en 2010, elle a été réduite de 14 à 3 milliards de dollars américains. Comment on peut expliquer ce phénomène?
Oui, moi je pense que ce phénomène peut être expliqué de deux manières. Je crois que dans l'introduction de cette émission, vous avez séparé ce qu'on appelle la dette intérieure, donc qui est contractée à l'intérieur du pays, et la dette extérieure qui provient en fait de ses partenaires techniques et financiers internationaux comme la Banque mondiale, les FMI ou la Banque africaine de développement. Alors, en ce qui concerne la dette intérieure, commençons par là. Vous savez, aujourd'hui l'État a un budget. Et l'État a un certain nombre de projets à réaliser. Je prends de manière simple les entreprises qui font, par exemple, les projets routiers ou les entreprises qui doivent construire un certain nombre d'ouvrages publics. Ces entreprises peuvent signer des contrats avec l'État. Ces entreprises peuvent assurer la part de leurs contrats alors que les paiements qu'ils reçoivent de l'État ne couvrent pas la totalité de leurs factures. Et d'un coup, on se retrouve dans une situation telle que l'État doit payer, doit honorer ses factures vis-à-vis de ses entreprises privées et autres qui ont pu assurer un certain nombre d'ouvrages ou de contrats en faveur de l'État ou qui ont peut-être vendu leurs biens au niveau de l'État qui n'arrive pas à honorer leurs factures. Et même aussi, l'État peut loger des gens dans des hôtels et n'arrive pas à payer ses factures. Ça génère ce qu'on appelle la dette intérieure qui est due aux transactions financières de l'État à l'intérieur d'un pays. Mmh. Alors aujourd'hui, nous pouvons constater qu'avec l'avènement du nouveau pouvoir, depuis 2019, il y a eu ce souci de vouloir s'engager sur plusieurs choses à la fois, de lancer certains projets, peut-être d'amener les niveaux de consommation à un certain niveau. Alors il se fait que l'État, peut-être comme on le dit souvent avec la guerre qui nous est imposée, l'argent que l'État pouvait utiliser pour payer, honorer ses factures et payer le financement de certains travaux, peut-être une partie de ces recettes ont pris une autre destination et d'un coup l'État se retrouve avec un gap pour assurer les paiements. D'autre part, ça peut aussi être dû à l'inefficacité ou bien à la faiblesse des recettes générées par l'État. Quand, par exemple, vous fixez un budget à 16 milliards en espérant que, sur le plan intérieur, nous allons réaliser 10 milliards de recettes, au lieu de 10 milliards, vous avez réalisé 3 milliards. Pourtant, vous avez déjà établi vos dépenses sur 10 milliards. Vous avez un gap qui vous pousse dans cette dette intérieure. Et ça, c'est ce qui fait que, d'année en année, on voit aujourd'hui que le volume de dette intérieure a augmenté jusqu'à atteindre les 2 milliards, comme on le dit aujourd'hui. Maintenant, sur le plan extérieur, quand nous voyons l'État signer une facilité de crédit avec le FMI qui va apporter 1 milliard, il y a la Banque mondiale qui va financer tel projet, qui va financer la gratuité. Ces financements, ce ne sont pas de l'argent qui est donné gratuitement. Ce sont des prêts-projets, donc les prêts qui viennent pour financer un certain nombre de projets, et tout cela est porté au débit du compte public de l'État, et ça génère ce qu'on appelle la dette intérieure. Regardez combien de projets ont été financés depuis 2019. On a bien dit, bon, on a brisé l'isolement diplomatique, on a attiré les bailleurs de fonds, mais l'argent qu'ils nous amènent, ce n'est pas de la charité, ils les considèrent comme étant des prêts. C'est ce qui fait que, avec tous ces projets qui ont été financés par les bailleurs ces derniers temps, ça accru l'encours de la dette de l'État vis-à-vis de tous ses partenaires, et globalement, on se rend compte aujourd'hui que l'ardoise pèse. Elle est déjà aujourd'hui autour de 10 milliards de dollars.
Alors, l'IMPS Kamonia, est-ce que on peut dire que cet accroissement de la dette publique peut être lié à la mauvaise gestion des finances? En un mot.
On ne peut pas faire directement un tel jugement. C'est une question qu'on peut relativiser. Quand on dit la mauvaise gestion des finances publiques, en finances publiques, il y a aussi ce qu'on appelle la gestion sur base caisse. L'État peut prendre une option de dire « je ne peux dépenser qu'en fonction de ce que je reçois ». Alors, lorsqu'on fait une gestion sur base caisse, à ce moment-là, vous évitez l'accroissement de la dette intérieure parce que vous dépensez en fonction de vos moyens. Mais si vous vous lancez dans les dépenses sans contrôler vos moyens, à ce moment-là, vous arrivez dans une situation où il y a la dette. Alors là, on peut conclure qu'il y a une mauvaise gestion des finances publiques. Mais il peut aussi y avoir des facteurs exogènes, comme je vous ai expliqué. Mm-hmm. L'État a prévu de payer un certain nombre de factures ou d'exécuter des projets en fonction de ses recettes. Mais quand ces recettes arrivent, l'État est confronté à certaines urgences, comme le cas de la guerre, par exemple. Donc on s'est dit qu'il faut soutenir l'effort de guerre. Là, il y a un détournement des recettes qui, au lieu d'aller vers les paiements des projets ou des biens et services qu'on a commandés, cet argent est orienté ailleurs et d'un coup, ça génère une dette. Donc c'est pourquoi j'ai dit, il faut nuancer cette question, ne pas mettre tout sur les comptes de la mauvaise gestion des finances publiques.
Il y a Marcel qui nous écrit depuis la commune de Limété, ici à Kinshasa, pose la question de savoir si la réduction du train de vie des institutions peut aider un pays à éviter d'avoir une dette un peu très croissante, en fait.
Oui, exactement, il a raison, c'est-à-dire il faut savoir faire la politique de ses moyens. Alors, si vous êtes confronté à des difficultés importantes, vos rentrées financières ne sont pas élevées, ou si vous avez des dettes imprévues qui sont importantes, il faut savoir rationaliser vos dépenses. Et un pays comme le nôtre, une des stratégies la plus importante, c'est réduire les trains de vie des institutions, parce que les institutions consomment plus de la moitié de notre budget, ce qui est déjà anormal. À ce moment-là, comme l'État ne peut pas s'arrêter, l'État ne peut pas tomber en faillite, vous continuez à financer ces dépenses des institutions à des proportions qui sont trop élevées. Conséquemment, vous vous privez des moyens qui devraient servir à honorer vos engagements vis-à-vis des privés, vis-à-vis des sociétés ou vis-à-vis de certaines banques. Donc, lorsque le temps de vie est élevé de l'État, ça nous amène aussi à tomber dans ces cas de l'accroissement de la dette publique, notamment intérieure.
Merci. Eric Tchoukouma, député national et spécialiste des questions économiques, faut-il s'inquiéter par rapport à cette croissance de la dette publique de la RDC?
Je dirais non. Non, pourquoi? Parce que lorsque j'interroge le rapport, le dernier rapport de l'année 2023 de la DGDP, je pense que les chiffres sont clairs. Les chiffres contenus dans ces rapports sont clairs. Nulle part il est indiqué que entre 2019 et 2024, la dette publique est passée de 3 milliards à 10 milliards. Non. Par contre, je vois dans ce rapport que l'encours était à 5,6 milliards de dollars en 2019 et il a évolué pour atteindre 10 milliards en 2023. Et ça, c'est le dernier rapport de la DGDP du quatrième trimestre de l'année 2023 qui a été publié récemment. Je pense qu'il est sur les sites de la DGDP. N'importe qui peut pouvoir le lire. Alors, dans ce débat qui a commencé il y a quelques jours, je pense avoir fait une mise au point pour donner un peu ce que je considérais comme la vérité de chiffres pour mettre fin un peu à l'interprétation erronée de ces chiffres de la DGDP.
Alors, Eric,
c'est vrai qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question principale, le ratio de la dette sur le PIB est à 17%, donc il est largement inférieur à la limite tolérée en Afrique, parce que lorsque vous regardez la plupart de pays africains, ils sont, par exemple, l'Angola est à 85%, il a 62 milliards de dollars, la Zambie est à 46%, et il y a même un pays qui nous agresse à côté qui est à 74%. Mais je voudrais préciser...
Mais doit-on se consoler pour cela, Eric Tchoukouma?
L'endettement n'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi parce que l'État qui ressent le besoin d'un financement peut recourir à ses moyens de financement pour pouvoir réaliser des projets, pour pouvoir lancer le développement économique du pays. Et cela passe par la réalisation de projets qui sont porteurs de croissance, et ces projets vont permettre à ce que la croissance soit inclusive, que cette croissance soit solide et qu'elle soit durable pour pouvoir créer les conditions de création des richesses pour amener le développement dans un pays. Donc, un État ne peut pas se refuser de contracter de dettes, puisque lorsque vous regardez les 5 pays du monde le plus riche, sont le premier 5 pays du monde le plus endettés. Et c'est parce qu'ils sont endettés, et c'est pour cela qu'on leur prête. Et vous savez qu'il y a un adage qui les dit.
Tchoukouma, c'est vrai, vous parlez des pays développés, mais ces pays-là, lorsqu'ils sont endettés comme ça, ils financent des projets d'investissement. Est-ce que c'est le cas, selon la RDC?
Justement, c'est le cas, parce que ceux qui vous prêtent, ils ne vous prêtent pas parce que c'est pour vos beaux yeux, pas du tout. Ils prêtent à des conditions qui sont claires. Et aujourd'hui, nous travaillons avec des institutions multilatérales, des bailleurs de fonds qui nous accompagnent, notamment dans les réformes qui sont mises en place pour organiser notre secteur économique, notre tissu économique. Et ces partenaires-là, ces bailleurs de fonds-là ne vont pas accepter que les conditions de soutenabilité et les conditions de réalisation de ces projets ne soient pas respectées. Ça signifie que la République démocratique du Congo serait mal réputée et qu'elle n'aurait pas l'opportunité de pouvoir lever d'autres fonds plus importants pour financer d'autres projets économiques. Je pense que ici, selon la politique d'endettement de la dette publique en République démocratique du Congo, qui est gérée, notamment mise en œuvre, notamment par la DGDP, à travers le gouvernement, mais ces projets, disons cette politique prévoit que des investissements soient orientés vers des secteurs qui sont porteurs de croissance, des secteurs qui sont créateurs de richesses. Regardez, aujourd'hui, nous avons des projets d'infrastructure qui sont menés à travers le pays, qui sont réalisés à travers le pays. Il y a le projet 245 territoires. C'est un projet qui touche à des secteurs socio-économiques à partir de la base. Dans 3 ans, si aujourd'hui peut-être les gens ne le ressentent pas,
et dans 5 ans,
projets seront à maturité et il y aura des effets qui vont commencer à se ressentir.
En parlant
aujourd'hui, nous avons des routes d'intérêt national. Nous avons des routes d'intérêt national. Je vous en prie, madame.
Allez-y, finissez votre idée.
Oui, nous avons des routes d'intérêt national qui sont en cours de réhabilitation aujourd'hui. Mais imaginez que ces routes, dès lors qu'elles seront achevées, ça permettra à ce que la République démocratique du Congo puisse s'engager vers le développement. Je prends l'exemple de la route Kisangani-Beni, ou alors la route qui va relier Kananga-Mbujimayi, Mbujimayi-Bukavu, Bukavu-Goma, c'est l'inclusivité ou l'inclusion nationale qui va être réalisée pour permettre à ce que la fluidité s'efface au niveau interne les opérateurs économiques vont commercer et les gens vont circuler. Et je pense que ces routes vont contribuer en termes d'infrastructures qui sont porteurs ou créatrices de croissance. Ça va permettre à ce que les tissus économiques soient solidifiés pour que des effets puissent se ressentir. Donc, il y a également les secteurs de l'éducation. L'éducation, ce n'est pas le paiement des salaires des enseignants, parce que le paiement des salaires des enseignants est financé par le trésor public. Mais l'argent qui vient de l'endettement sert à la construction, par exemple, des infrastructures scolaires. Vous savez qu'à travers le pays, il y a des écoles qui sont en train d'être construites. Vous savez que à travers le pays, s'il faut parler du secteur de la santé, il y a des centres médicaux, il y a des hôpitaux qui sont en train d'être construits et ou réhabilités. Donc, c'est pour dire que, suivant la politique du gouvernement, il faut orienter des investissements vers ces secteurs-là, et c'est ce qui est fait. Les salaires, je le dis encore une fois, les salaires, le fonctionnement ne sont pas payés par la dette publique et ne devraient pas l'être, parce que ça rentre dans les charges régaliennes, les charges contraignantes qui sont supportées par le budget de l'État. Je pense que à ces points de vue, les Congolais doivent être rassurés et nous sommes là pour suivre. Il faut questionner le gouvernement pour définir ce qui a été fait dans les détails par rapport à cet accroissement de 4,4 milliards, je le dis, ce n'est pas un accroissement de 10 milliards, c'est un accroissement de 4,4 milliards environ entre 2019 et 2023. Et les chiffres sont disponibles sur le site de la DGDP. Tout le monde peut le consulter.
Merci. On vous garde encore dans cette émission. Florimond Mouteba, vous êtes professeur et président du conseil d'administration de l'Observatoire de la dépense publique. Votre analyse sur cet accroissement de la dette publique de la RDC qui a dépassé le cap des 10 milliards de dollars américains en 5 ans.
Merci madame de m'associer à ce débat. Vous savez, nous parlons de la dette publique. Nous sommes en plein dans la dépense publique, dans notre domaine, d'observer la qualité de la dépense publique. Madame, vous voyez, le monsieur qui a parlé tout à l'heure...
Monsieur Tchikouma.
Voilà, j'ai vraiment admiré son optimisme. Avant que je revienne sur la chaîne des investissements publics, comment au Congo, comment elle marche, je voulais prendre tout de suite un seul exemple d'un projet comme celui de la Sicomine, madame. Il a parlé des hôpitaux, etc. Mais dans ce projet qui a été, dont l'IGF a fait l'analyse, une analyse qui a été publiée en février de l'année dernière, un hôpital, celui du cinquantenaire, a été réalisé sur une facturation de 118 millions de dollars, madame. 118 millions de dollars, cet hôpital que vous voyez là, 118 millions de dollars. Et les surfacturations dans ce projet d'ailleurs, c'est ce qui a fait l'objet de renégociations donc entre la FDC et la Sicomine, mais il n'y avait que des surfacturations, c'est-à-dire une route qui pouvait revenir à 1 million de dollars, qui était facturée 6 millions, etc. Donc vous voyez que, oui, comme il disait là, c'est vrai que on ne doit pas avoir peur de la dette. Maintenant, le problème, c'est cette dette-là. Produisent-elles, d'abord, elles ont été constituées comment, n'est-ce pas, par des coûts élevés dus à des surfacturations, dus à des rétrocommissions, etc. On l'a vécu sous Kabila, on l'a vécu ici. Et donc, quelque part, il y a des dettes qui ne seront jamais arrêtées par le fonctionnement des projets. Qu'ils ont généré ne pourront jamais se rembourser. Regardez un peu le triste exemple du programme des 100 jours. Un programme hors budget, un programme dont l'évaluation. Parce que vous savez, madame, pour arriver à un projet, pour arriver à financer un projet, il y a tout un processus. On doit planifier, programmer, budgétiser, puis suivre. Soit au Congo, ce processus-là ne fonctionne pas, madame. Vous savez, au ministère du plan, la DPB, la Direction de Programmation et Budgétisation, ne fonctionne pas. Le programme d'investissement public, et c'est sur quelle base? Vous allez voir que les directions des unités de planification, quand elles font leur programme et envoient au ministère du budget pour qu'on ait le PIP, le programme d'investissement public, vous allez voir que ce sont des feuilles d'une ou deux pages où on vous dit, ah là on va faire une école, ah là il y a ça, etc. etc. Donc, le processus de planification, de programmation, de budgétisation, de suivi et évaluation au Congo est mort. Il est mort. Donc, c'est, on se réveille un matin, ah, le président va dire, c'est pas, ouais, tiens, il faut qu'on fasse une école ici. Qui a fait l'étude? Où est cette étude? Où est sa planification pour voir quels sont les indicateurs qu'on doit atteindre et ensuite qu'on va suivre pour évaluer? Vous voyez? Donc, je ne veux pas, comment dirais-je, aller dans trop de détails, parce que personnellement, j'ai participé pendant 9 mois à, comment j'allais dire, à un diagnostic. Nous avons fait un diagnostic, j'y étais comme expert avec un collègue burkinabé à la CTP sur la demande de la coopération belge. Je vous dis que le diagnostic que nous avons fait, la chaîne de la dépense, donc la programmation des investissements et des dépenses d'investissement, mais c'est une catastrophe. Madame, je peux vous envoyer l'exemplaire demain où les messieurs députés là, je peux lui envoyer ça. Je vous dis que c'est catastrophique, madame, catastrophique.
Donc, les députés estiment qu'il ne faudrait pas s'inquiéter parce que les ressources de la dette vont financer des projets qui vont stimuler la croissance.
Il n'y aura pas de retour parce que ce sont des dettes impositives. Donc, quel retour aurons-nous, par exemple, du programme de 100 jours et des projets qui étaient dedans? Ceux qui ont détourné l'argent, 57 millions de dollars, ça n'a jamais été récupéré par l'État. Ils ont même été graciés. Vous voyez que dans cette option-là, de la culture de la corruption, de la culture de l'impunité, on pourra récupérer quelque chose de l'argent du programme de 100 jours. Donc, je vous dis, madame, c'est ça.
Mais on a aussi les infrastructures. Il a parlé des infrastructures du programme de 145 territoires.
Mais ces infrastructures-là, qui, au lieu de coûter, par exemple, 1 million, coûtent 6 millions, surfacturées, mais, allez, je vous envoie l'analyse de l'IGF, il y a eu des surfacturations impossibles. Alors, comment veux-tu, dans un projet surfacturé, où on construit des routes à usage unique, n'est-ce pas? Il y en a plein qui s'installent dans les provinces à usage unique. Alors, comment voulez-vous qu'il y ait un retour d'investissement? Donc, notre grand problème, madame, c'est la qualité de l'investissement. Notre grand problème, c'est une gouvernance des investissements publics chaotiques. Je vous rappelle les cas des programmes de 100 jours ou des projets qui les aident. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme retour d'investissement dans des projets comme ça? Regardez aujourd'hui, nous avons perdu dans un mauvais projet, comme celui de la Chicomine, le projet chinois, nous avons perdu 17 milliards de dollars, madame. 17 milliards. Et c'est pour cela qu'on a été obligé de renégocier. On a renégocié, bon, on a récupéré 7 milliards, bon, encore une fois, nous verrons, sans évaluation, sans suivi, je ne sais pas comment on va faire un quelconque retour d'investissement. Donc pour moi, on n'a pas à avoir peur de la dette, mais on doit savoir comment s'endetter. Un endettement de qualité. Et un endettement de qualité exige une série d'études depuis le plan national, la programmation, avec les projets matures, c'est-à-dire on a étudié la rentabilité de ce projet-là pour être sûr que voilà, il y aura un retour réellement par la production, la vente de services, etc. Et que ce retour peut nous permettre de rembourser et de nous réendetter. Mais aujourd'hui, les niveaux de gestion, les niveaux de gouvernance actuels, les investissements publics au Congo sont tellement mauvais qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de s'endetter parce que dans 5 ans, nous allons nous retrouver avec une dette pas de 15 milliards, mais peut-être de 20, improductive.
Merci professeur. On va prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à nous appeler sur notre standard. On va se rendre à Goma dans la province du Nord Kivu pour écouter Désiré qui est en ligne.
Désiré qui a quoi depuis la ville de Goma? Cette situation est préoccupante car une dette publique importante peut entraîner des conséquences économiques négatives pour un pays tels que des taux d'intérêt élevés, une inflation accrue et une diminution de la confiance des investisseurs. Il est essentiel pour la RDC de mettre en place des mesures pour réduire ses dépenses et augmenter ses recettes afin de stabiliser sa dette publique. Cela peut passer par des réformes fiscales, la lutte contre la corruption et la promotion de l'efficacité des dépenses publiques. Il est également important de veiller à ce que les fonds empruntés soient utilisés de manière transparente et efficace pour des projets qui contribuent au développement économique du pays. Enfin, il est essentiel de surveiller de près l'évolution de la dette publique et d'agir rapidement en cas de risque d'endettement.
L'aime ce témoignage.
Par rapport à toutes les considérations qu'il est en train de soulever, parce que lorsque vous avez une dette, cela génère des intérêts à payer. On appelle ça les services de la dette. Il y a des intérêts à payer. Or, les intérêts à payer, plus qu'ils augmentent, ils vous privent des moyens pour financer en propre d'autres projets. Et vous courez le risque de rentrer dans un cercle infernal d'endettement, ce qui n'est pas une bonne chose. Et aussi, la question qu'on se pose souvent, je crois que c'est la question de savoir quelle est la qualité de la dépense publique, même la qualité des investissements publics qui sont financés avec cette dette publique. Parce que si vous prenez de l'argent pour, au lieu que cet argent rentre dans le financement des investissements qui ont été prévus, et que cet argent est détourné, ou bien à cause de la corruption et autres conséquences, l'argent qui a été endetté n'arrive pas à financer les projets pour lesquels cette dette a été contractée, à ce moment-là, ça soulève un problème. Donc vous vous retrouvez avec une dette qui n'a pas de contrepartie pour la prendre en charge dans les jours à venir. Je crois que lutter contre la corruption, veiller sur la qualité de la dette, de la dépense publique, et aussi essayer d'éviter les effets néfastes du service de la dette, sont autant de préoccupations qui doivent être prises en compte par l'État au moment où il gère la dette publique. Je crois qu'en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de mettre là.
Eric Chukuma, il y a Barthélémy Ponjo depuis Bruxelles, hein, nous suit depuis la page Facebook de Radio Capi. Il demande comment expliquer le paradoxe entre les records en mobilisation des recettes tant vantées par le ministre des Finances depuis son entrée en fonction et cette accumulation exponentielle de la dette publique. N'est-ce pas que le gouvernement est tombé dans une illusion financière au point de fixer des budgets annuels irréalistes qui amènent finalement le pays vers un gouffre financier?
Premièrement, je voudrais préciser à notre auditeur que ce parallélisme-là n'est pas ou n'a pas de sens, parce que les finances publiques ne vont pas aujourd'hui permettre à ce que nous puissions développer notre pays, que nous puissions réaliser des projets d'envergure nationale, rien que en mobilisant les recettes fiscales. Ça, c'est pas possible. Et surtout dans les conditions de la République démocratique du Congo, où l'assiette fiscale est assez faible par rapport au potentiel fiscal. Donc, je pense que c'est vraiment illusoire de penser que rien qu'avec les recettes fiscales, on peut aujourd'hui construire notre pays, réaliser des projets d'infrastructure. Donc, c'est impossible. C'est pour cela l'État congolais, dans le besoin, exprimant son besoin de financement, je l'ai dit au début, a recouru à ces mécanismes pour lever des fonds. Et pour lever des fonds aujourd'hui, le niveau de la République démocratique du Congo, parce que le dette ou la mesure, la dette, on la mesure pas par des chiffres absolus comme ça, voilà, elle est passée de 10 milliards à 11 milliards, ou de 2 milliards, ou de 5,6 milliards comme c'est le cas à 10 milliards, une évolution de 4,4 milliards et non une évolution de 10 milliards sur le quinquennat, on n'évalue pas ça comme ça. Ça s'est fait par rapport à des ratios. Et lorsqu'aujourd'hui vous regardez tout le ratio de la République démocratique du Congo, vous verrez que ils sont au vert. Et c'est une situation très rare par rapport à beaucoup de pays africains et même à travers le monde. Et ça nous conforte dans la mesure où notre soutenabilité, notre capacité d'endettement et même notre soutenabilité est bonne. Est bonne pourquoi? Lorsque vous regardez notamment l'évolution de nos recettes propres, qui est passée je pense aujourd'hui à 75% de l'ensemble du budget. C'est très très important parce que ça donne la crédibilité à ceux qui prêtent que ces pays est en mesure de pouvoir rembourser l'argent qu'il est en train de solliciter en termes de prêts.
Alors, donc, une autre question,
je suis d'accord.
S'il vous plaît, Eric Tchikouma, très rapidement, on va prendre cette autre question qui vous est adressée. C'est une question qui vient de David Wedi, qui nous suit depuis Kinshasa. Monsieur Eric, peut-il nous dire des projets financiers qui sont arrivés à la fin de l'exécution avec cette grosse dette? Un exemple
concret. Dire que je ne parle pas au nom du gouvernement ici.
C'est une question qui est mieux destinée
au gouvernement. Allô? Vous m'entendez?
Oui, allez-y.
Voilà, c'est une question à laquelle le gouvernement de la République qui pilote ces projets devrait répondre de manière précise avec des détails pour déterminer que voilà, nous avons financé tel projet. Mais ici, nous parlons de manière générale sur base des informations que nous avons. Et s'il le faudrait, nous allons organiser une question orale au gouvernement pour pouvoir avoir tous ces éléments le moment venu au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce que je voudrais dire ici, et je le répète, que le niveau de la dette congolaise n'a pas évolué de manière exponentielle. Ça, il faut le retenir. Et cet argent, sur le 4,4 milliards, il faudrait considérer la dette, les créances de la Banque centrale, de la Banque centrale sur l'État congolais, qui avoisine en tout cas le 2 milliards de dollars, qui ont été comptabilisés dans cette enveloppe d'évolution de 4,4 milliards, parce que c'est des dettes qui se sont accumulées au fil des années, depuis plus d'une décennie, et ces créances, c'est que c'est constitué essentiellement de l'argent que le gouvernement congolais sollicitait en termes d'avance auprès de la Banque centrale pour financer son train de vie ou financer ses dépenses budgétaires. Et cette pratique, vous pouvez vous informer, a été stoppée net depuis que le pacte de stabilité a été mis en place entre le ministère des Finances, le ministère du Budget et la Banque centrale. Je pense que c'était au cours de l'année 2019.
Merci Eric.
C'est une pratique qui avait été révolue. Il est hors de question aujourd'hui de financer les dépenses budgétaires, les dépenses courantes de l'État avec l'argent venant de la Banque centrale.
Merci. On vous a compris.
Représente 2 milliards de dollars qui sont contenus dans cette évolution, dans cet accroissement de 4,4 milliards sur le quinquennat passé.
Merci Eric Tchikouma. On va vous redonner. On va vous redonner la parole, Eric Tchikouma. Est-ce que vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? Merci Eric Tchikouma. Merci de nous suivre, hein, parce qu'on court derrière le temps. Vous êtes trois dans cette émission. Il faudrait accorder le même temps d'antenne à tout le monde. Professeur, on va rester à Goma, je veux dire, pour prendre cet autre auditeur qui appelle Dr Michel Bolingo.
Docteur Michael Bolingo, c'est aussi à partir de la ville de Goma. La population congolaise a été surprise d'un budget qui s'évalue aujourd'hui à 16 milliards de dollars, pendant qu'avec Kabila, on avait 4 milliards, sans dépréciation de monnaie, ni hausse des taux de dollars sur le marché. Ce budget dont on ne voit pas l'impact social sur terrain, où les agents de l'État sont impayés, nombreux pensent que ce budget n'était pas réaliste. Voilà la raison de conclure que la RDC vit des dettes publiques au détriment de ses recettes publiques. Nous aimerons savoir, souvent nous suivons à travers les médias, que la DGI et les autres recettes, régies financières, ont une augmentation en mobilisation de recettes. Où part cette mobilisation de recettes pendant que nous sommes en train de vivre une dette exponentielle? Peu importe la guerre, on doit expliquer à la population l'origine de cette dette, car on avait eu la guerre en 2013 aussi. À mon avis, le voyage du chef de l'État, un gouvernement budgétivore, le Sénat sans impact positif et les multiples détournements de décideurs sont à la base de cette dette qui doit être payée avant la fin de leur mandat pour ne pas nous laisser en dette qu'on ne partage pas.
Professeur Florimond Mouteba, brève réaction.
Il a raison sur toute la ligne. Parce que c'est vrai que, grâce aux efforts de l'IGF, on a pu améliorer quand même la mobilisation des recettes internes. Et donc, l'autre grand problème aujourd'hui, c'est la qualité même de la dépense. Je l'ai expliqué longuement. C'est la qualité de la dépense. Même pour les investissements financés par l'extérieur. Je vais vous donner un exemple que je vis au quotidien moi-même. C'est les 800 millions qui ont été donnés par la Banque mondiale pour la gratuité. Mais madame, ce que je vous dis, c'est vraiment des témoignages que j'ai reçus des enseignants, ainsi de suite. Donc vous voyez, pour le principe même de la gratuité, c'était quoi? C'est de supprimer la dépense que les parents faisaient, n'est-ce pas, pour financer le fonctionnement de l'école. Hein? Et permettre alors à beaucoup d'autres enfants, et c'est vrai qu'il y a eu quand même plus de 5 millions d'enfants qui ont rejoint les bancs de l'école. Mais vous savez ce qui se passe avec les frais de fonctionnement? Si nous prenons l'ensemble du pays, ça doit être aux alentours de 100 millions que l'État débourse pour donc les frais de fonctionnement. Mais en retour, les bureaux gestionnaires par lesquels cet argent passe, demandent aux directions, les COGES, les comités de gestion des écoles, des rétropositions. Et donc, au lieu que cet argent aille, et qu'il va être remboursé parce que c'est un prêt de la Banque mondiale, mais au moins 30 ou 40 millions rentrent pour la rétrocession auprès de ceux qui l'envoient là-bas. Vous allez suivre mon regard. Et donc, vous comprenez que ce genre de dettes-là, ce genre de dettes mal gérées, où il y a des rétrocommissions, où il y a la corruption, où il y a le détournement, ça ne peut pas faire avancer le pays.
Alors, qu'est-ce qu'il faut, professeur, pour réduire la dette? Ça sera votre conclusion.
Moi, je ne demande pas qu'on réduise la dette. Ce que je demande, c'est que la dette soit viable, qu'elle soit productive et qu'elle soit capable de faire face au service même de la dette. Dans le cas du Congo, aujourd'hui, c'est impossible. Parce qu'il y a des cas comme ce que je vous dis, il y a des investissements décidés sans études, sans préparation, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, il vaut mieux stopper de continuer à s'endetter quand on sait que on ne saura pas. La dette, elle est improductive, elle est contractée de manière abusive, c'est-à-dire sans études préalables, etc. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à deux fois avant de chercher encore à augmenter ces dettes-là. Et je vais vous donner une autre information, madame. Les dettes intérieures. Vous savez pourquoi nos services de l'État adorent la dette intérieure? Parce que pour la rembourser, ils sont obligés de la décoter. Vous avez par exemple un investisseur, donc un créancier, à qui on doit par exemple 10 millions de dollars. Au moment où il va aller pleurer pour avoir cela, on va lui donner 3 millions et puis les 7 millions, allez. Cela décote et ça va dans le poche des gens. Le TEP a dénoncé ça au mois de juillet 2023, mais ces pratiques-là font que, quand vous allez regarder le service de la dette, la partie concernant la dette intérieure, ils arrivent parfois à 300%. 300%, parce que c'est là où ils se servent.
Merci.
Donc, globalement, madame, la gouvernance telle qu'elle est aujourd'hui nous interdit de continuer encore à prendre des dettes. Ça ne nous interdit pas que ça ne sert pas le développement du pays, mais les poches.
Merci, professeur Florimond Mouteba. On va écouter très rapidement ces derniers auditeurs qui nous appellent depuis Kolwezi.
C'est Patrick Ngouli qui m'a depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. Il est vrai que la situation de la guerre dans l'est du pays peut aussi être à la base de cette augmentation fulgurante, malgré qu'il n'y ait aucun résultat escompté. Mais aussi la mauvaise gestion des finances publiques. Comment peut-on consommer plus que ce que l'on a produit? Et cela doit interpeller au plus haut point les garants de la stabilité économique du pays, qui est le président de la République. Et les institutions politiques du pays, très budgétivores, seraient aussi à la base de cette situation, à mon avis. Ma question est celle de savoir, on a fait quoi avec cet argent, pendant que certains projets de développement n'ont pas connu le moindre financement?
C'était là notre auditeur de Kolwezi. Nous sommes vraiment à la fin de l'émission. Lems Kamwanya, alors le prof, qu'est-ce que vous pensez de l'avis du prof qui estime qu'il faut stopper, de continuer à s'endetter?
Oui, non. Bon, en principe, on ne peut pas dire qu'on va stopper de s'endetter. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est que il y a des efforts à faire au niveau d'abord de la gestion des finances publiques. Je pense, dans les moments qui est, si on regarde la situation économique et financière actuelle du pays, on n'a pas que la dette, il y a aussi la monnaie qui se déprécie. Et je crois que la première des mesures qui doit être prise serait de revenir sur la gestion sur base caisse, c'est-à-dire l'État ne peut dépenser qu'en fonction de ses moyens. Ça serait déjà une mesure assez forte pour éviter de stopper la dette et de stopper l'inflation. Une deuxième mesure qui doit être prise, c'est de diminuer les trains de vie des institutions pour arriver à réduire les dépenses de l'État. Une troisième mesure, comme le professeur l'a dit et je vais le rejoindre, c'est améliorer la qualité de la dépense. Même si nous recourons à un endettement extérieur, mais dès lors que cet endettement serait orienté vers des projets d'investissement qui peuvent, à moyen et à long terme, accroître notre potentiel économique, à ce moment-là, ce que nous prenons aujourd'hui comme dette, nous allons trouver à moyen à long terme des moyens pour pouvoir la soutenir et pouvoir la rembourser. Mais si on doit continuer à s'endetter et ne pas financer les projets de développement et aller dans les dépenses courantes et aller ne pas diminuer le train de vie de l'État, à ce moment-là, il y aura beaucoup d'inquiétudes et on ne peut pas continuer à avoir une dette qui n'est pas soutenable.
Merci Lems Kamwanya. Eric Otukuma, conclusion. Votre avis par rapport aux propositions de Lems Kamwanya et du professeur?
Je le partage totalement et j'ajoute que nous pensons que dans le cadre de notre travail parlementaire, c'est ce que nous allons faire. Nous comptons veiller sur le renforcement de mécanismes d'affectation, de gestion et de contrôle de fonds reçus au titre de la dette publique afin de booster la situation socio-économique de la République démocratique du Congo. Et pour le cas de notre pays, je m'oppose à ce qu'a dit tout à l'heure le professeur Florimond pour dire qu'il faut s'endetter davantage et s'endetter encore pour des investissements qui sont porteurs de croissance inclusive, solide et durable. Parce que, nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, le problème, ce n'est pas la dette, mais c'est la solvabilité. Et cette solvabilité se mesure par les différents ratios que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc, je pense qu'avoir plus de dettes, c'est être plus solvable, car on ne prête qu'aux riches.
Voilà. Merci,
et
Eric.
Puisque on ne prête qu'aux riches, nous allons y veiller et nous allons pousser le gouvernement à faire son travail, parce que les dispositifs de contrôle, l'IGF, la Cour de compte, ainsi de suite, fonctionnent, et le dispositif de veille, notamment, dont fait partie l'ODEP, ACAJ et plusieurs autres structures de la société civile, sont opérationnels pour alerter, pour veiller à ce que le gouvernement fasse correctement son travail.
Merci Eric Tshikouma.
C'est ce qui est en cours d'être fait.
Merci
et nous
beaucoup
devons
Eric.
Encourager toutes nos institutions à travailler là-dessus.
Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guimate, Dona Madimba, Mimi Kindou, Clément Chimanga, Jonathan Fonami, Hervé Vauquia, et l'équipe Elamondo a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kéline Couté. Une suite de programmes sur la fréquence de la paix.